qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous recevons une stimulation quelconque au niveau de la périphérie du corps, au niveau du centre, c'est-à-dire au niveau de la face, lorsque nous recevons une stimulation quelle qu'elle soit, eh bien, il va se produire une chose étrange, à savoir que pendant un certain nombre de secondes, tout va être en fonction de cette stimulation. Parce que j'ai écrit le principe des substitutions. Toute stimulation crée dans l'organisme un processus réactionnel qui se substitue en le bloquant à tout état réactionnel antérieur. La durée d'effet est variable suivant le type de la stimulation continue ou discontinue, c'est-à-dire la stimulation peut être continue ou au contraire peut être hachée, et l'intervention possible d'un nouveau stimulus. Il est évident que si vous faites une nouvelle stimulation après cette première, eh bien, il est évident que ça va couper de la même manière que cette première a coupé les précédentes, la suivante va couper celle-là. Donc, c'est le principe des substitutions qui va durer un certain nombre de secondes. Eh bien, ce nombre de secondes, en moyenne, est de 14-15. C'est-à-dire que pendant 14-15 secondes, ce qui est un temps très long pour quelqu'un qui prend le pouls, eh bien, vous allez pouvoir uniquement observer ce qui est donné par cette nouvelle stimulation. S'il n'en était pas ainsi, il serait impossible, étant donné le nombre de stress auxquels nous sommes soumis au cours de la journée, et au cours naturellement de l'examen, il ne serait pas possible de rien observer. Étant donné que tout serait mêlé l'un avec l'autre, on ne pourrait pas, d'une manière raisonnable, parler d'une modification quelconque. Alors, je relis pour ceux qui sont présents très au fond de la salle et qui n'ont pas la possibilité de voir. Principe des substitutions. Toute stimulation crée dans l'organisme un processus réactionnel qui se substitue en le bloquant à tout état réactionnel antérieur. La durée d'effet est variable suivant le type de la stimulation, en parenthèse continue ou discontinue, et l'intervention possible d'un nouveau stimulus. J'ajoute, et nous aurons l'occasion d'y revenir, que cette loi est applicable uniquement pour l'instant aux petites stimulations, c'est-à-dire celles auquel est sensible le pouls, et non pas au gros stress qui naturellement ont des points d'impact différents et qui, par exemple, un gros stress ne pourrait pas être modifié par une nouvelle information, une nouvelle stimulation. Il est donc nécessaire de bien comprendre sur quel plan nous travaillons. Nous travaillons sur un plan dont je vous reparlerai, qui est un plan tout à fait subtil, mais qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'observer. On peut l'observer très bien. C'est la première chose. Une fois que vous avez cela bien dans la tête, eh bien, il vous sera possible de très bien comprendre que nous pouvons observer tout ce qui va se passer dans le corps. En particulier, il va se produire un phénomène curieux qui est le phénomène de la répétition d'une information de base. Et la répétition de cette information de base va être extrêmement instructive. Nous allons envoyer un stimulus tel qu'il ne donne absolument aucun effet au pouls. Nous allons l'envoyer et nous allons, si vous rafraîchir la mémoire, la fois dernière, nous vous avons dit que si nous éclairions progressivement la peau, il nous était possible d'avoir au pouls un de la vitesse de propagation des centres d'image qui est presque la vitesse même de propagation de l'influx nerveux le long des nerfs. Ce que nous savons, c'est que cette propagation se faisant d'une manière rapide, il y a un moment où, loin du point d'impact primitif, vous avez encore une rémanence de l'image de contre la contre-image. Mais il y a un moment où vous ne l'avez plus. Si vous ne l'avez pas encore, le second point d'impact lumineux ne va donner aucun rebond. Si elle y est au moment où vous faites votre projection lumineuse, vous allez avoir un rebond. Et si elle n'y est plus, si elle est passée, vous n'aurez pas de rebond non plus. Vous aurez donc, en fonction de la vitesse de propagation de la contre-image, vous aurez ou un rebond, ou vous n'aurez rien du tout, suivant que votre second point d'impact et sa distance du point primitif sera fait dans des conditions de temps très particuliers qui sont à calculer ou à constater expérimentalement. Ceci doit nous inciter à observer d'une manière très précise ce que nous appelons les transferts d'informations. Alors ces transferts se produisent d'abord et ont été observés d'abord à la lumière blanche. On envoie avec une lampe à éclairage progressif que l'on allume fort un premier point d'impact et l'on constate en réglant la lampe que ce point d'impact ne donne pas de réaction au point. Puis, une fois qu'on est sûr que ce premier point d'impact ne donne pas de réaction au point, brusquement, on change le lieu de projection de la lumière et on a mis un autre endroit, par exemple, du bras. On a commencé par exemple au poignet, on arrive au coude et on regarde s'il y a une projection, s'il y a un rebond. Si vous avez un rebond en bout, vous pouvez être sûr qu'il y a eu propagation de la contre-image du premier point d'impact au second. Et si au contraire vous n'avez pas de projection, eh bien vous n'avez pas de rebond. C'est donc un moyen extrêmement simple d'étudier le transfert des informations. Ce transfert des informations, je voudrais que vous le compreniez bien, et c'est pour cette raison que, dans un premier temps, je voudrais d'abord que vous m'interrogiez, parce qu'au cours des interventions, on s'aperçoit que, d'ailleurs, c'est pas bon. Nous employons une lumière colorée, par exemple une lumière rouge. À gauche, nous avons un impact rouge. Je dis qu'à ce moment-là, au moment où j'envoie un impact rouge, j'ai à ce moment-là une réponse verte. Le vert est ce que j'appelle la contre-image. Pourquoi est-ce que je dis que j'emploie ce mot de contre-image? En parenthèse, je voudrais que je le mette peut-être dans mon vocabulaire. Enfin, là, on charge Anne Rivière de me reprendre là-dessus et de me faire encore une liste. Bon. Pourquoi est-ce que j'appelle ça la contre-image? Parce que cette image verte est la lumière complémentaire, la couleur complémentaire de la lumière rouge. Bien. J'observe que dans les conditions de rebond de la lumière blanche, si je déplace mon point d'impact de 1 en 2, je vais avoir un rebond que je marque au niveau de ce point noir, tandis que le 0 n'a marqué aucun rebond, d'abord le premier, n'a marqué aucun rebond, à gauche, au niveau du point 1, et ne marquera aucun rebond. Si j'envoie au lieu en 3 la lumière rouge, j'envoie de la lumière verte. Alors, je reprends. J'envoie la lumière rouge en 1. puis un second point d'impact en 2. Là, j'ai un rebond. Je vais reprendre. Je prends en 1, j'envoie de la lumière rouge. Et j'envoie de la lumière verte en 3. Je n'ai aucun rebond. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, messieurs, je n'ai aucun rebond parce que dans le second cas, j'avais aussi lumière verte contre lumière verte. On a l'impression qu'il est nécessaire d'avoir dans le cas du rebond une opposition de couleurs, de la couleur primitive et de la contre-image qui est d'opposition de couleurs, qui est de couleur complémentaire. Vous allez me dire, oui, mais en fait, c'est une vue d'esprit, cette histoire, c'est pas possible. Eh bien, je vais vous donner deux arguments. D'abord, physiologiquement, vous savez parfaitement que lorsque vous regardez pendant un certain temps une lumière rouge, que vous la regardez avec votre rétine, si vous fermez les yeux pendant, après ce moment de stimulation, vous voyez la couleur complémentaire verte. C'est d'ailleurs une propriété physiologique d'être touché. C'est la loi d'action-réaction. Bon. Mais il y a mieux. Je me suis dit, bon, le rouge et le vert en conjonction provoquent une micro-information que j'appelle le rebond. Et si je projetais en même temps sur un point les deux couleurs? Eh bien, faites l'expérience. Si tout vous saurez prendre le pot, vous pourrez le faire. Projetez deux couleurs complémentaires sur la peau, alors qu'aucune d'entre elles, spontanément et seule, ne peut provoquer une réaction au pouls, les deux ensemble le provoquent. J'ai provoqué, alors au lieu d'employer ce système-là, au même moment, j'ai envoyé une lumière verte et une lumière rouge, ou une lumière violette et une lumière orange, ou une lumière, je ne sais pas quoi, bleu et orange, et violette et verte, et marron, non verte, je sais. En tout cas, les deux complémentaires provoquent instantanément un rebond pour d'emblée, tandis que chacune des composantes ne provoque absolument rien. J'ai estimé que cette expérience, ainsi que l'expérience que j'ai marquée en 1 et 3, était suffisante pour affirmer la propagation de la contre-image verte. Alors, vous allez dire, et la lumière blanche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lumière blanche, je n'en ai pas encore la solution, mais il est probable qu'il doit y avoir une diffraction au niveau de la cellule et que ça doit être le magma de tout ce qui est diffracté, c'est-à-dire de tout l'ensemble des sept couleurs qui doit être prise par la cellule puis renvoyée avec les lumières complémentaires. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. La lumière blanche n'est que l'amalgame de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce transfert de lumière colorée, et c'est quelque chose de passionnant. Et ça va nous amener à des choses très, très étonnantes. Tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Rappelez-vous que, à mesure que l'on filtre la couleur et que la couleur est de plus en plus monochromatique, elle va avoir des singularités. J'aurais par exemple une couleur rouge absolument monochromatique, je suis presque persuadé que ça, et j'en suis sûr, que sa vitesse de propagation, la vitesse de propagation de la contre-image n'est pas tout à fait la même que si nous avons affaire à une lumière jaune, par exemple. La contre-image de la lumière jaune. Et puis qu'elle n'est pas la même, il peut y avoir des rebonds différents. Et puis, on s'aperçoit que suivant la couleur, le rebond est plus ou moins fort, qu'il est plus ou moins existant. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que chaque couleur monochromatique emprunte une voie nerveuse différente. Je pense que René est d'accord là-dessus.
Non seulement ça, mais est encore différente en fonction des différents moments de la journée. C'est le même individu.
Et j'ajoute que il vient de nous sortir une loi physiologique, car vous savez très bien que l'équilibre vagosympathique n'est pas le même suivant les
êtres. On parle d'ailleurs de ça, d'ailleurs.
Nous sommes ensemble et nous partageons tout à fait les mêmes idées. Nous sommes plutôt parasympathiques dans la fin de la nuit et nous sommes plutôt sympathico-toniques à certains autres moments. Et Il faut vous dire, et vous allez le voir tout à l'heure, que la couleur rouge monochromatique est du côté surtout des infrarouges, vous avez une dominante orthosympathie.
Oui, et moi je pense toujours à mon confrère de Rennes, et alors je lui signale deux choses curieuses, je signale aux autres aussi. D'un côté, vous allez avoir des gens tels que les spasmophiles chez qui vous n'allez trouver aucun rebond à aucune couleur quelle qu'elle soit, ou tout au moins des tout petits rebonds, alors que vous allez faire des débauches coloriées énormes. Et exactement à l'opposé, vous aurez de magnifiques maniaco-dépressifs, et je parle bien de la psychose maniaco-dépressive, quel que soit son pôle, qui va vous donner des réactions absolument magnifiques, alors que vous employez de très peu de couleurs.
La connaissance de ces variations de transfert coloré est déjà une première notion qui va vous amener à des choses plus importantes. Mais qu'est-ce qu'une couleur? Une couleur, c'est une fréquence. C'est une fréquence très élevée, mais c'est une fréquence quand même. C'est une fréquence de millions et de millions de Hertz. Mais c'est une fréquence. Et en retombant plus bas, et en revenant aux fréquences que je vous ai exposées et qui sont utilisées sur l'EMS, le thérapeuteur EMS, est-ce que vous allez vous me dire, est-ce qu'on peut étudier le transfert des fréquences lumineuses des diodes? Eh bien, naturellement. Naturellement. Non seulement les fréquences des diodes, mais on peut utiliser des transferts de toutes les fréquences que l'on veut au point de vue lumineux. Alors, comment fait-on? Eh bien, d'abord, d'une manière générale, et scientifique, eh bien, vous employez des appareils, ce qu'on appelle des générateurs de fréquences, qui est l'une des diodes, et puis, vous étudiez comment ça se transfère, et comment les rebonds se produisent. Et pour pouvoir les étudier comme il faut, eh bien, on emploie des appareils qui permettent d'envoyer l'impulsion à un endroit, le point grand A, et de l'envoyer à un autre qui a été repéré d'avance, point grand B, à quoi? Un millième de seconde, deux millièmes de seconde, trois millièmes de seconde. On a toute la gamme pour voir combien de temps va mettre le transfert lumineux fréquentiel entre le point grand A et le point grand B. Est-ce que vous me comprenez? Là, c'est facile. Et alors, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il va se produire une chose fantastique. C'est qu'à un moment de ces fréquences, vous augmentez les fréquences de plus en plus, à un moment, vous n'allez plus avoir de transfert. Et puis, si vous continuez à augmenter la fréquence, vous allez avoir un nouveau transfert. Que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous avez mis le doigt sur, pour la première fois, sur une technique qui va amorcer l'arrêt des transferts. Et qu'est-ce que c'est que l'arrêt des transferts? Eh bien, c'est l'analgésie. C'est l'analgésie. C'est-à-dire que pour la première fois, la technique du pouls et la technique des transferts va nous permettre de voir un petit peu plus clair ce qui se produit dans les histoires d'analgésie. Et je sens que René va nous dire quelque chose. Ah, je croyais. Parce que lui est devenu, malgré ses idées préconçues, est devenu un maître en analgésie réflexe. Alors c'est pour ça que je pensais qu'il allait nous exposer quelque chose là-dessus.
Je me lève contre les idées préconçues. Hein. Je trouvais simplement que c'était illogique.
Voilà. Alors, vous voyez déjà comme c'est intéressant.
Oui, mais attention, qui dit encore analgésie? Analgésie, c'est quelque chose qui vous touche tous, parce qu'on en a parlé, parce qu'on en a parlé dans les journaux. Mais n'oubliez pas, messieurs, que ça peut être également exactement l'inverse, c'est-à-dire une source de douleur que l'on qualifie volontiers de psychique, parce qu'on n'en connaît pas le substratum exact, mais je vous fais remarquer que le substratum, vous pouvez se faire... Non, j'ai regardé, il n'y en a pas. On a de belles bouteilles, mais on n'a pas les moyens de les ouvrir. Je vous fais remarquer que cette façon, vous avez le substratum qui est là et que vous pouvez de ce fait connaître. Car de la même façon que vous allez avoir des douleurs d'un dépressif, et vous allez avoir des réactions énormes au transfert d'informations, vous avez de ce fait des douleurs résiduelles chez un spasmophile, parce que justement vous n'avez pas d'informations. Donc ce qu'on vous dit là n'est pas qu'une curiosité d'esprit, ça a des répercussions pratiques absolument énormes. certains types de névralgie que j'ai trouvé, vous avez de cette façon, vous allez mettre en évidence une pathologie totalement différente. Vous allez voir les malades sous un tout autre aspect. Vous allez éclairer des choses qui jusque-là apparaissaient du domaine de la psychiatrie et vous allez en faire de la médecine praticienne, classique, physiologique, j'allais dire. C'est vrai. De ces perspectives, est-on bon dans la pratique médicale, journalière. Vous avez donc l'EMS. Vous allez me dire, c'est bien beau, là, vous faites des transferts, là, vous faites l'analgésie, bon, ça nous intéresse, mais le jour où vous avez sorti des appareils, ben, on les prend, on les marche, on les fait tourner, et puis c'est tout. Mais est-ce qu'il y a une application avec l'EMS? C'est bien beau, les choses théoriques, mais nous voulons avoir des choses pratiques. Pratiques pour nos malades. Eh bien, oui, il y a des choses, une application pratique extraordinaire. Et je l'ai noté sur le plan. C'est l'application des transferts fréquentiels à l'intérieur du pavillon de l'oreille. Lorsque vous projetez sur un point de l'oreille une fréquence lumineuse et que vous la reprojetez sur un autre point de l'oreille, vous avez d'abord des transferts possibles. Vous le savez, je ne vous le rappelle pas, ou si vous voulez que je vous le rappelle, je vous le rappelle. Vous avez des lois qui font que, projetant une image fréquentielle, fondamentale, si vous la reprojetez sur le tragus, vous devez avoir combinaison, c'est-à-dire vous devez avoir rebond, vous devez avoir un transfert. Ça me paraît important. C'est-à-dire, j'insiste, si vous projetez la lumière C sur la région C, à un endroit quelconque, vous n'avez pas de rebond, mais vous en avez un si vous projetez ensuite, tout de suite après, cette même lumière C sur le tragus. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne comprenez pas, il faut me le dire. La fréquence C sur sa région doit se transmettre sur le tragus. Projeter sur la région C une fréquence parasite, par exemple du B, par exemple du G, et que vous essayez de la repiquer sur le tragus, ça ne marche pas. Vous n'avez pas de transfert. C'est intéressant, ça prouve que ça n'est pas physiologique. Mais vous avez la possibilité de faire tout piquage que vous voulez sur le reste du pavillon. Ce qui prouve encore une fois, premièrement, que le parasite, quand il est dans un endroit de l'oreille, peut se balader ailleurs. Et que deuxièmement, il y a une différence fondamentale entre le tragus et le pavillon. Vous voyez que le tragus joue un rôle et René prépare des travaux très importants là-dessus. J'ose le dire. Voilà. Porte une innervation spéciale sur laquelle je reviendrai, mais vous savez tous qu'il va représenter, entre autres, il représente le corps calleux, c'est-à-dire le corps nerveux qui va projeter toute incitation d'un hémisphère pour le projeter sur l'hémisphère opposé exactement au même point. Il est donc logique, si vous prenez n'importe quel substratum du corps, que ce soit du B, du C, du D, du E, du F ou du G, il est logique que le projetant au niveau du corps calleux, vous ayez une réponse, puisqu'automatiquement ça va partir sur l'autre hémisphère. Ça, du point de vue physiologique. Car il est logique, nous avons deux cerveaux qui ne réagissent pas de la même façon, mais qui sont quand même prévenus quand il se passe quelque chose dans le corps. Les deux cerveaux sont prévenus par l'intermédiaire du corps calleux. Il est donc logique que ce passage
vous le ressentiez par un remède. Ceci, physiologiquement.